résonance magnétique nucléaire, un mot barbare ou poétique? Voilà la question. En tout cas, on va essayer aujourd'hui de défricher cet univers certainement méconnu par les auditeurs avec Monsieur Lionel Montagne, donc responsable du Centre commun de résonance magnétique nucléaire. Bonjour Monsieur Lionel Montagne.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Campus.
Donc effectivement, la résonance magnétique, ça parle peut-être pour certains d'entre nous. Ça a un rapport avec les hôpitaux, par exemple?
Oui, tout à fait. On utilise tout à fait le même principe dans les hôpitaux. Donc dans les hôpitaux, on va sonder l'eau que vous avez dans votre corps. Cette eau, donc, elle va avoir une sorte de vibration qui va dépendre de votre activité physiologique. Et de la même manière, avec nos spectromètres, on va sonder également la structure de la matière de manière à déterminer l'activité. Alors, ce ne sera pas une activité physiologique, bien entendu, mais le but, c'est de comprendre comment fonctionne la matière.
Donc, cette résonance, ça se mesure? C'est un appareil? C'est un concept?
Alors, c'est à la fois un concept et un appareil. Alors, un appareil, donc un spectromètre, on appelle ça un spectromètre. Donc, c'est un appareil dans lequel on va placer les échantillons à analyser et on va mesurer donc l'effet de ces échantillons, l'effet sur ces échantillons d'un champ magnétique, d'où le terme de résonance magnétique. Alors, on va sonder au niveau des noyaux de la matière. Donc, on va vraiment chercher des choses extrêmement fines. Et ces noyaux se comportent comme des petits aimants, si on prend une image. Et donc, quand vous allez mettre ces petits aimants dans un gros aimant, qui est donc le spectromètre, ces noyaux vont s'aligner. Et puis, on va mesurer, en fait, l'énergie de ces noyaux. Et cette énergie va dépendre de l'environnement de ces noyaux, donc de la structure fine de la matière. Alors, ces noyaux, ils peuvent être très, très divers. Donc, ça peut être des noyaux d'hydrogène, pour prendre le plus simple. Donc, c'est là qu'on va retrouver l'eau qui est dans notre corps et l'IRM à laquelle on faisait allusion tout à l'heure. Mais ça peut être beaucoup d'autres noyaux, comme du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du silicium, de l'aluminium. Presque tous les noyaux de la classification périodique sont observables en RMN. La condition, il faut que ces noyaux se comportent comme des aimants. Donc il faut qu'il y ait quelques petites règles physiques, disons, à respecter par rapport au nombre de protons et de neutrons qui sont dans les noyaux, pour que ces noyaux aient une activité magnétique, pour qu'ils soient observables.
Alors on l'a bien compris, on est dans de la mesure fine, hyper fine. On peut avoir une idée de l'échelle de grandeur?
Alors, on travaille sur des échelles, on résonne en général en fréquence, et on prend comme point de repère le proton, encore une fois, qui est le noyau le plus simple. Donc, le proton, donc on va exprimer ce qu'on appelle sa fréquence de résonance. On parlera peut-être de la résonance après. Donc, sa fréquence de résonance, pour donner un point de repère, donc, est typiquement de 400 MHz. Alors, cette fréquence va dépendre de la force de l'aimant qu'on utilise. Donc 400 MHz, ce sont des aimants un peu standards maintenant. Et puis, si on veut regarder des choses de plus en plus fines au niveau des noyaux, donc on va utiliser des aimants de plus en plus puissants. Et on est actuellement avec des aimants qui font 800 MHz, 900 MHz, voire 1000 MHz. Alors ici, sur l'Université de Lille, donc on a la chance d'avoir deux spectromètres qu'on appelle les spectromètres à très haut champ, qui sont donc des spectromètres dans lesquels les protons résonnent respectivement à 900 MHz et à 800 MHz. Alors il faut savoir que le record mondial actuellement est de 1000 MHz et il est détenu par l'Université de Lyon qui possède un appareil à cette fréquence-là uniquement depuis le mois d'octobre. Vous voyez, c'est tout nouveau. Donc c'est un appareil qui est unique au monde, je dis bien 1000 MHz, c'est vraiment une grande première.
Alors quand je vois la taille de l'appareil, on peut dire que la taille de l'appareil est inversement proportionnelle au champ d'observation.
Oui, tout à fait. Effectivement, il faut un aimant qui soit extrêmement puissant pour pouvoir observer l'effet de résonance magnétique nucléaire. Donc plus l'aimant va être puissant, plus sa taille va être importante. Il faut savoir que un aimant, donc c'est la force d'un aimant s'exprime en Tesla. Donc on est avec des aimants de l'ordre de 18 à 20 Tesla à peu près. Il faut comparer ça au champ magnétique terrestre, par exemple, qui est quelques micro-Tesla. Ouais, on est à plusieurs millions de fois l'intensité du champ magnétique terrestre.
À ces niveaux-là, est-ce qu'il y a une réaction possible ou une interaction avec la personne qui travaille autour?
Non, il n'y a pas d'effet sur le corps humain répertorié. La preuve, c'est qu'on fait de l'IRM et il n'y a aucune contre-indication. Bon, il y a des principes de précaution qui s'appliquent tout de même, notamment pour les femmes enceintes. Le plus gros danger est en fait pour les appareils électroniques. Parce que bon, voilà, c'est un champ magnétique, donc évidemment, il faut que les personnes qui portent un pacemaker n'approchent surtout pas l'aimant, parce que le champ magnétique sort de l'aimant. Donc les personnes qui portent des pacemakers, mais aussi votre téléphone, votre carte de crédit, évidemment, il faut éviter d'approcher.
D'accord, on risque d'avoir des fusions?
Non,
explosions?
Non, pas du tout. C'est simplement une interaction d'un champ magnétique, hein, donc c'est pas du tout, c'est pas quelque chose d'une interaction très énergétique, hein, bien entendu. Si vous prenez deux pièces de monnaie que vous mettez à 3 mètres de l'aimant, ces deux pièces de monnaie vont rester collées ensemble. Mm-hmm. Hein, vous voyez, donc le champ magnétique sort de l'appareil, mais il n'y a absolument aucune interaction avec le corps humain.
Alors, on a bien compris que cet appareil de résonance magnétique nucléaire était quelque chose, j'allais dire, d'unique. Donc, qui dit unique, dit à partager avec d'autres, vu les investissements. Donc, cet appareil qui appartient, on peut dire, à l'ILIN, c'est ça?
Non, on ne peut pas dire qu'il appartienne à l'ILIN. Justement, il est partagé, effectivement. Donc, il est partagé notamment entre le CNRS, la région Nord-Pas-de-Calais qui a beaucoup contribué au financement de ces appareils, l'Europe également, et bien entendu le ministère de la Recherche.
Voilà, donc l'Université de Linin en est le responsable, j'allais dire administratif, technique, et donc vous en avez beaucoup de soins, je suppose.
Oui, tout à fait.
Ça fait l'objet de beaucoup d'attention. Il y a vraiment, par rapport à ça, des précautions particulières?
Alors, il y a une maintenance, effectivement, qui est très importante sur ces appareils. Alors, il faut savoir que pour atteindre des champs magnétiques aussi intenses, on utilise des électroaimants, mais qui sont des électroaimants particuliers, en ce sens qu'ils utilisent des matériaux supraconducteurs. Alors un supraconducteur, c'est un matériau qui n'a pas de résistance électrique. Donc vous imaginez une bobine comme un électroaimant classique, comme celui qui ouvre vos portières de voiture. Et donc ce matériau supraconducteur est refroidi à la température de l'hélium liquide. Donc là on est à des températures de 4 Kelvin. À cette température-là, donc l'hélium donc, va maintenir la température, mais il faut régénérer donc, cet hélium qui a tendance à s'évaporer. Et malheureusement, l'appareil consomme un peu d'hélium. Et donc, à peu près tous les 2 mois, il faut renouveler une partie de l'hélium qui s'est évaporé. Et il ne faut surtout pas oublier de le faire, parce qu'à ce moment-là, on aurait ce qu'on appelle un quench de l'aimant, c'est-à-dire que l'aimant perdrait son caractère supraconducteur. Et ça détruirait pratiquement l'aimant.
Alors à un moment donné, on parlait beaucoup des espoirs de la supraconduction pour éviter les pertes de champs d'énergie, de choses comme ça, conduire l'électricité. C'est encore d'actualité?
Oui, tout à fait. Et là, on utilise tout à fait le procédé le processus de supraconductivité. Mais vous voyez qu'on a cette contrainte qu'il faut travailler à température de l'hélium liquide. Donc malheureusement, on n'a pas su trouver pour l'instant de matériaux qui soient supraconducteurs, des températures plus sympathiques pour une utilisation grand public. Hein. Là, ici, on est vraiment à des températures cryogéniques, mais ça se prête à des analyses très pointues comme celles qu'on peut faire dans nos laboratoires.
Lionel Montagne, donc ce magnifique appareil, hein, il est partagé entre plusieurs partenaires, on va dire. Et pour faire quel type d'analyse, d'activité?
Alors, il ne s'agit pas d'un appareil, mais de plusieurs appareils, je me permets de préciser. En réalité, donc, il y a deux appareils à très haut champ, hein, un 800 MHz et un 900 MHz. Donc 800 MHz qui avait été installé en 2005. À l'époque, c'était le premier appareil au monde à être capable de travailler à la fois sur des liquides et des solides. Donc c'était vraiment l'originalité de l'île. Et puis, les temps évoluant, les besoins augmentant, on s'est donc équipé d'un deuxième appareil qui est un 900 MHz, alors qui est un peu plus puissant, hein, évidemment, que le 800 MHz. Alors évidemment, ces appareils, comme ils sont très coûteux, ils sont bien entendu partagés par la communauté des chercheurs de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ces chercheurs sont regroupés au sein de ce qu'on appelle un groupement scientifique RMN. Et la particularité donc de Lille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de regrouper des communautés à la fois de gens qui travaillent dans le domaine de la physique, de la biologie, mais également de la chimie. Et donc on travaille sur des matériaux extrêmement variés, hein, et qui sont à la fois des liquides et des solides. Donc ça, c'est vraiment la spécificité du site de Lille. Alors, en termes de quel type de matériaux ? Alors, en ce qui concerne les liquides, ça sera essentiellement des liquides biologiques, donc des objets biologiques qui peuvent être en particulier des protéines. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser la structure de ces protéines, donc les protéines qu'on a dans notre corps. Certaines de ces protéines fonctionnent mal, elles peuvent être à l'origine de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et le fait de mieux comprendre la structure de ces protéines donc, permet de mieux comprendre leur fonctionnement, mais aussi leur dysfonctionnement. Donc voilà l'intérêt de faire ces études très fines par RMN.
Alors vous parliez de liquide, vous parliez de solide. Il y a aussi des états intermédiaires. Par exemple, si on prend le verre, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en ce qui concerne les analyses en RMN, le verre, on va l'assimiler à un solide. Mm-hmm. Alors, il est vrai que le verre, c'est un solide un peu particulier, mais dans l'état où on va faire les mesures en RMN, donc il s'agira d'un solide au sens large. Alors, c'est un solide qui n'a pas de structure à longue distance, c'est pour ça que le verre va être transparent, mais d'un point de vue analyse, on va le considérer comme un solide, au même titre qu'une céramique, qu'un polymère.
D'accord. Est-ce qu'il y a des objets qui ont des états intermédiaires entre liquide et solide ?
Alors, on peut avoir effectivement des états qu'on pourrait qualifier d'états de gel, où on va voir mélanger des phases solides et des phases liquides. Et une des particularités également du site de Lille, c'est d'être équipé, d'avoir un très bon savoir-faire dans le domaine de cette RMN de l'état intermédiaire, l'état gel. Donc une RMN qu'on appelle haute résolution, HR-Mass, et qui permet donc de faire des analyses très pointues sur ces états un peu intermédiaires, qui va combiner les contraintes qu'on a au niveau des liquides, mais aussi au niveau des solides.
Mmh. Est-ce qu'il y a une part de vivant dans ces choses que vous expérimentez ?
Malheureusement, non. Le vivant va être concerné par l'IRM, mais qui est donc une technique, si elle utilise les mêmes principes physiques que l'ARMN, c'est une méthodologie qui est complètement différente. Donc à Lille, on ne fait pas d'IRM au sens de la recherche, on fait vraiment de la spectroscopie, hein, donc de la résonance magnétique nucléaire.
Quelles sont les applications qui ont déjà débouché dans des process économiques, par exemple ?
Ici, on est au stade de la recherche. Donc, on travaille en partenariat avec des industriels sur certains des projets, pas sur tous. Hein, on ne peut pas dire qu'on va aller vers des applications au sens industriel du terme, mais on travaille sur le développement de projets en collaboration avec des industriels. Alors, je peux donner quelques exemples. Dans le domaine des matériaux, par exemple, on évoquait les verres. Donc, certains types de verres sont utilisés pour réaliser des protections sur des matériaux à base de carbone, des matériaux composites à base de carbone, qui sont utilisés pour faire des tuyères de fusée. Alors, ce sont des matériaux qui sont très légers, donc très utiles pour gagner du poids au niveau des fusées, mais qui a un gros défaut, c'est de s'oxyder à haute température. Le carbone brûle, tout le monde le sait bien. Donc, pour éviter ce problème, on protège la surface du carbone avec quelque chose qu'on peut assimiler à un émail. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que cet émail, il faut pouvoir donc l'adapter aux contraintes du matériau. Donc, on utilise la résonance magnétique nucléaire, la RMN, pour caractériser la structure des verres. Et à partir de la compréhension de la structure, on comprend mieux comment fonctionne la propriété du verre. Et donc, on va pouvoir savoir tel composant qu'on va ajouter dans le verre, quel va être son effet sur les propriétés. Par exemple, sur la viscosité du verre. Donc, oui, on peut avoir une démarche empirique. Par exemple, c'était la démarche qui était utilisée par beaucoup de verriers, finalement. On savait tel oxyde va avoir tel effet sur la propriété du verre, mais c'était très qualitatif. Maintenant, on est dans un stade au-dessus où on va essayer de comprendre pourquoi tel oxyde va avoir cet effet sur la propriété du verre. Et donc, on a besoin de savoir, d'un point de vue structural, comment se comporte cet oxyde quand on va l'ajouter à la composition du verre.
Dans la région, il y a des écoles de textile et notamment des applications qui conduisent, comme par exemple l'exposition Futurotextile qui a eu lieu il y a un certain temps, à des matériaux qui permettent de considérer le textile autrement que des textiles traditionnels et pour des applications qui peuvent être, par exemple, créer des équipements pour les vaisseaux spatiaux, ou bien l'aéronautique, ou des choses qui ont des propriétés thermiques très différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir. Est-ce que ces sujets de pointe, cette production particulière, c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous interpelle ?
Oui, tout à fait. Donc, une des équipes qui participe donc au groupement scientifique RMN, donc qui est dirigé par le professeur Bourbigaud, à l'école de chimie de Lille, s'intéresse aux propriétés, aux résistances au feu des polymères. Donc, une de ses approches, c'est de caractériser par RMN la structure des polymères qu'il utilise, et également quel va être l'effet des additifs qu'il ajoute dans ces polymères, comment ces additifs vont pouvoir avoir cet effet anti-feu. Donc, vous voyez, c'est tout à fait une des applications qui sont développées par cette équipe-là.
Alors, comme vous le disiez, la recherche n'est pas forcément avoir un but précis, c'est justement de chercher pour aller repousser plus loin les frontières de la connaissance. Donc, ces frontières-là, on a du mal, nous, en tant que pauvres citoyens, à les évaluer, à les définir. Pour vous, c'est un monde merveilleux, plein de possibilités ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très excitant de pouvoir mener plus loin la connaissance de la matière. Donc pour nous, c'est vraiment un travail de tous les jours et on essaie de repousser toujours plus loin les limites de la connaissance. Alors bien entendu, on a toujours une approche, on est relativement modeste, hein, mais en ce qui concerne donc nos travaux sur la RMN, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans la compréhension de l'organisation des atomes dans la matière. Par exemple, une démarche qu'on a actuellement dans la RMN, c'est de sonder la proximité spatiale entre les noyaux. Alors, pour prendre une image, un noyau, donc c'est un petit aimant, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et quand vous rapprochez deux aimants, vous savez très bien que soit ils se repoussent, soit ils s'attirent. Alors on peut faire la même chose au niveau des noyaux dans la matière. Et donc par RMN, on va sonder l'état d'un petit aimant. Et quand on va approcher les autres aimants, donc les autres noyaux, on va être capable de détecter cette interaction. Donc vous imaginez, c'est des interactions à l'échelle de quelques nanomètres. Hein, et on va être capable donc de mesurer la proximité spatiale de ces noyaux. Et de cette manière, on va assembler une espèce de puzzle. Alors si je prends l'image des protéines qu'on évoquait tout à l'heure, les protéines, donc, ce sont des assemblages d'acides aminés. Donc on va regarder les enchaînements entre le carbone, l'azote, l'hydrogène, et puis on va regarder ensuite le carbone suivant, où est-il, et puis le carbone encore à côté. On va faire comme ça des assemblages d'acides aminés, et puis un petit peu à la fois, on va construire une molécule qui peut être énorme, qui peut être constituée de plusieurs centaines d'acides aminés. Donc vous voyez, c'est un peu une sorte d'énorme puzzle, de jeu de pistes. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre métier, on ne se le limite pas uniquement à utiliser simplement de la RMN. On va chercher aussi des connaissances dans d'autres domaines. Et ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est tout ce qui est technique de calcul. Hein, on exploite la puissance des ordinateurs maintenant. Donc on va corréler les mesures RMN à des calculs qu'on va faire, des modélisations. Et c'est ceci qui va nous permettre de construire des images en trois dimensions de la structure des protéines et de définir quels sont les sites actifs, les endroits où la protéine a sa fonction.
Alors, est-ce que cette expérimentation sur l'infiniment petit, ça peut également donner des règles, des principes qui sont valables pour l'infiniment grand ? Est-ce que ça peut aider ?
Là, je ne vois pas bien de relation directe, honnêtement.
Entre la matière de l'infiniment petit et puis l'univers, est-ce qu'on peut faire des parallèles ou des rapprochements ?
C'est une question intéressante, mais là, j'avoue que, en ce qui concerne en tout cas notre approche, je ne vois pas bien comment on pourrait relier les deux, non.
Donc on peut dire que les champs d'activité et aussi les champs de recherche sont faits par des gens très différents de nature, des chercheurs très différents de formation.
Oui, tout à fait. Oui. On a parlé beaucoup de la communauté des biologistes. Ensuite, on a la communauté des chimistes. Hein, donc sur l'île, c'est essentiellement des gens qui travaillent sur les matériaux d'une part, mais aussi sur des produits, des liquides physiologiques, hein, des médicaments. Ensuite, on a des physiciens qui, eux, vont plutôt travailler dans le domaine de la méthode, hein, qui vont développer la méthode, les méthodes d'analyse, essayer d'aller repousser plus loin les limites de l'analyse, augmenter la sensibilité, la résolution. Parce qu'on peut agir donc sur l'appareil, hein, on peut avoir des aimants de plus en plus puissants, mais on peut aussi essayer de travailler sur la méthode, la façon dont on fait l'acquisition des données.
Donc, cette unité de résonance magnétique nucléaire, est-ce qu'elle est accessible aux doctorants, par exemple, aux gens qui font des études après le master ?
Bien sûr. Donc, évidemment, les doctorants sont le cœur de nos laboratoires. Hein, c'est la cheville ouvrière de nos laboratoires. Donc, bien entendu que les docteurs travaillent sur ces appareils. Donc, dans un premier temps, ils accèdent à des appareils qui sont des appareils plus de routine, donc avec des aimants de l'ordre de 400 MHz. Vous voyez. Et ensuite, donc, quand ils ont en quelque sorte leur permis de conduire, donc ils peuvent accéder aux spectromètres à très haut champ, exactement comme les chercheurs. Donc on fait également des formations hein, au niveau du centre de RMN de Lille. Donc tous les ans, il y a une formation qui regroupe à peu près une vingtaine de personnes, qui viennent d'ailleurs de toute la France, hein, pas uniquement de Lille, et qui viennent donc soit apprendre le fonctionnement de ces spectromètres ou se perfectionner dans l'utilisation de ces spectromètres.
Alors, Lionel Montaigne, vous avez dit que cette installation était enviée par beaucoup de chercheurs. Est-ce qu'elle est enviée au niveau du monde entier ?
Aller envier, aller partager. C'est vrai que quand on a installé le 800 MHz à Lille, il avait vraiment cette spécificité. Bon, ce n'était pas le seul 800 MHz, évidemment, au monde. Hein, il y en a beaucoup d'autres qui ont été implantés depuis. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces spectromètres sont partagés avec la communauté des chercheurs. Ce n'est pas un appareil qu'on garde jalousement pour nous, chercheurs de Lille. Donc, ce sont des appareils qui sont ouverts à l'échelle nationale. Donc on est regroupé au centre de ce qu'on appelle une infrastructure de TGIR, donc très grande infrastructure de recherche qui est pilotée par le CNRS. Et le principe, donc, c'est qu'il y a 5 centres en France qui partagent l'accès à leurs appareils aux autres chercheurs. Donc il y a typiquement 30% du temps d'utilisation de ces spectromètres qui est réservé ainsi à l'utilisation par d'autres chercheurs qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur université des équipements de cette taille. Alors ces centres sont complémentaires dans leurs équipements mais aussi dans leur savoir-faire. Donc en fonction du type d'expérience que souhaite faire une personne, donc par exemple plus une expérience sur des molécules biologiques ou plus une expérience sur des céramiques, elle choisira donc le centre qui sera le plus approprié à son analyse.
Est-ce que ça peut intéresser ou inciter des chercheurs d'autres pays du monde à venir ici, dans la région lilloise, pour chercher, peut-être même transmettre à votre équipe des connaissances ou des compétences ?
Oui, donc nous travaillons beaucoup en collaboration avec des laboratoires étrangers. Nous accueillons très régulièrement des étudiants, mais aussi des chercheurs étrangers qui viennent non seulement utiliser les appareils, mais aussi partager notre expérience, notre savoir-faire. Notamment, on évoquait les doctorants tout à l'heure. Nous avons des doctorants qui viennent de Chine, d'Inde, d'Allemagne, d'Espagne, donc qui viennent se former dans le cadre de leurs travaux de thèse à l'utilisation de l'ARMN. Nous avons également depuis 3 ans maintenant un master international au niveau de Lille 1 qui s'appelle Advanced Spectroscopy for Chemists, donc qui, comme son nom l'indique, hein, est donc sur le thème de la spectroscopie à destination des chimistes. Et donc comme c'est un master international, il permet des étudiants de nombreux pays étrangers de venir se former à Lille 1 aux techniques spectroscopiques, donc pas uniquement à l'ARMN mais aussi la spectrométrie de masse, la spectroscopie infrarouge, les spectroscopies de surface.
Si on envisage l'avenir, est-ce que votre domaine scientifique est un domaine qui va encore se développer, qui va susciter beaucoup d'intérêt ? Comment vous le ressentez ? Quelles seraient vos propositions, voire vos souhaits ?
Alors, il y a deux RMN, il y a un RMN des liquides et un RMN des solides. En ce qui concerne les RMN des liquides, on peut dire que les développements méthodologiques sont quasiment matures. Donc, dans le domaine RMN liquide, c'est en termes d'utilisation que ça va encore beaucoup évoluer. Donc, l'étude des protéines n'est encore qu'à son début. Donc, il y a plein de choses excitantes, évidemment, à trouver dans ce domaine-là. Il y a énormément de recherches qui sont conduites, il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre. Par contre, dans le domaine des solides, là, la méthodologie n'est pas encore du tout mature. C'est encore un domaine qui est en pleine évolution, qui a énormément progressé ces 10 dernières années. Mais on pense qu'encore pendant probablement une bonne dizaine d'années, il y a encore énormément de progrès à faire, notamment en termes de résolution et de sensibilité. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Est-ce que vous avez des souhaits ? Bon, là, on a parlé d'un équipement extraordinaire. Est-ce que d'autres sont en perspective ?
Alors, on aimerait bien, évidemment. Alors, des idées, on en a toujours.
Alors, on en profitait.
Alors, un des problèmes qu'on a en RMN, c'est que la sensibilité de cette méthode n'est pas très importante. Donc, quand on veut travailler sur des petites quantités d'échantillons, on doit aller aux limites de la méthode. Donc, on a besoin d'augmenter cette sensibilité. Alors, une des façons de faire, alors il y a des techniques qu'on connaît déjà très bien. Par exemple, c'est quand vous avez un noyau qui est un aimant qui n'est pas très puissant. Donc, vous avez peu de sensibilité. Alors, un moyen d'augmenter la sensibilité, c'est d'utiliser l'aimantation d'autres noyaux qui sont à côté. Et on va transférer l'aimantation de ces noyaux sur le noyau qui nous intéresse et augmenter comme ça un peu artificiellement sa propre aimantation. Alors ça, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Et puis, pour essayer encore de gagner, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser l'aimantation non plus des noyaux qui sont à côté, mais des électrons. Et il s'avère que l'aimantation des électrons est beaucoup plus importante que celle des noyaux. Et en faisant ça, on pourrait gagner énormément en sensibilité. Alors ça, c'est une des choses qui est en phase d'émergence actuellement. Et on pense que dans les quelques années à venir, il y aura des choses absolument très intéressantes qui vont déboucher dans ce domaine-là.
Bien, monsieur Lionel Montagne, je vous remercie de ces précisions. Et je vous souhaite bonne chance, ainsi qu'à toute votre communauté scientifique.
Merci beaucoup. Thank you.